Une minute de retard. Mes excuses, France Culture, il est 12h31. À rattraper. Bonjour à vous, Thomas Cluzel.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que les indicateurs de la pandémie de Covid-19 continuent de se dégrader en Europe, nous irons tout d'abord en Espagne, pays le plus touché de l'UE par la deuxième vague de coronavirus. L'Espagne qui voit en l'occurrence sa lutte contre le Covid entravée par une guerre politique entre gouvernement central et régional.
En France, après l'ire des élus locaux contre le manque de transparence du gouvernement, Jean Castex s'entretient depuis ce matin avec les maires de plusieurs grandes villes.
Oui, objectif déterminer les mesures à mettre en œuvre localement pour enrayer la propagation de l'épidémie.
Et dans votre journal également, l'indépendance de la justice en France est-elle en danger?
Hier, François Molins, procureur général de la Cour de cassation, a une nouvelle fois mis en garde contre la décision du garde des Sceaux d'ouvrir une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier. Ignorant les appels au cessez-le-feu, les combats meurtriers opposant l'Azerbaïdjan et l'Arménie se poursuivent dans la région séparatiste du Haut-Karabakh. À la jonction de plusieurs zones d'influence, de puissance concurrente. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, nous recevrons la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Et le portrait entre les lignes d'une anthropologue pas comme les autres, c'est Nastasia Martin qui sera avec nous à partir de 12h55. Elle vient de recevoir et d'être couronnée du prix Joseph Kessel. Elle signe aussi l'introduction d'un livre d'une professeure américaine anthropologue, Anna Tsing. Le livre s'appelle Friction et il nous invite à regarder ce monde autrement.
C'est un nouvel épisode de la guerre que se livre en Espagne. Le gouvernement central de gauche d'un côté et l'exécutif régional madrilène de droite de l'autre. Après un long bras de fer et face à une explosion inquiétante des cas de Covid-19, les autorités ont finalement décidé hier d'étendre à toute la capitale les mesures déjà en vigueur depuis une semaine dans les zones de la région les plus touchées par le virus. En clair, le décret préparé par le ministère de la Santé prévoit d'interdire à tous les habitants de Madrid d'entrer ou de sortir de la ville, sauf pour des motifs justifiés. Problème, l'exécutif régional, lui, qui ne voulait pas de ce plan, a aussitôt prévenu qu'il ne l'appliquerait que s'il y était contraint, mais promet d'ailleurs d'ores et déjà un recours en justice. Bref, une nouvelle passe d'armes donc qui illustre en réalité la complexité de la politique espagnole où les régions ont de très larges compétences et notamment s'agissant de la santé. Explication à Madrid de notre correspondant Mathieu de Taillac.
Mardi soir, il y avait un accord entre la région et le gouvernement central, c'est en tout cas ce qu'avaient dit leurs représentants. Il n'y avait plus qu'à en discuter avec les 16 autres communautés autonomes pour voter des restrictions taillées sur mesure pour Madrid. Des restrictions pour des villes de plus de 100 000 habitants, présentant un indice d'incidence supérieur à 500 cas pour 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours, mais aussi 10% de PCR positifs et encore 35% de lits occupés en soins intensifs de la région. 10 communes remplissaient les critères, les 10 à Madrid. Et puis hier, patatras, la présidente de la région fait savoir qu'elle n'est pas d'accord. Les régions discutent quand même de mesures prévues pour Madrid, mais contre Madrid. Une majorité vote pour et le ministre en tire sa conclusion. Un arrêté ministériel est publié ce matin. Les communautés autonomes, en l'occurrence celle de Madrid, ont 48 heures pour mettre en place ce qu'on appelle ici un confinement périmétral. Autrement dit, boucler Madrid et 9 communes de sa banlieue pour que les habitants en sortent ou pour que des visiteurs y entre, il faut présenter un motif valable, aller au travail, emmener ses enfants à l'école ou se rendre chez le médecin essentiellement. La présidente de la région précise ce matin qu'elle n'entre pas en rébellion, qu'elle exécutera bien les ordres du gouvernement central, mais qu'elle portera un recours aux tribunaux pour, dit-elle, défendre les intérêts des madrilènes.
En France, à présent, là aussi, la situation sanitaire continue de se dégrader de telle sorte que les pronostics les plus pessimistes sont désormais de rigueur s'agissant de possibles nouvelles restrictions, notamment en Île-de-France, Paris, déjà placé en zone d'alerte renforcée, pourrait ainsi se voir imposer prochainement une fermeture totale des bars et restaurants, comme c'est déjà le cas à Aix et Marseille depuis dimanche dernier. Seule certitude, avant toute décision, les autorités entendent cette fois-ci travailler main dans la main avec les élus locaux. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Depuis ce matin, le Premier ministre Jean Castex enchaîne les entretiens avec les maires de plusieurs grandes villes sur les mesures donc à mettre en œuvre pour enrayer la propagation du coronavirus. Ou quand le gouvernement a, semble-t-il, retenu la leçon, Sophie, après avoir été accusé d'exercer une forme de centralisme à outrance.
Oui, c'est une opération déminage, effectivement. Prudence et dialogue en réponse à la colère des élus d'Aix-Marseille qui avaient dénoncé la décision de l'exécutif de fermer les bars et les restaurants sans discussion préalable. Il s'agissait donc ce matin de faire des recommandations dans le cadre d'une concertation avec les élus pour évaluer les mesures déjà mises en place et discuter de mesures de renforcement si les indicateurs venaient à évoluer défavorablement, précise l'entourage du Premier ministre. Jean Castex marche sur des œufs et souhaite avant tout éviter que l'exécutif ne se retrouve seul à endosser la responsabilité de décisions de plus en plus difficilement acceptées par la population et très lourdes de conséquences au niveau économique et social. La première à avoir été reçue ce matin, c'est la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. Se sont succédés ensuite le maire écologiste de Lyon, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, qui a déclaré à la sortie que le Premier ministre leur avait accordé 15 jours sans mesures nouvelles, alors que le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, s'entretenait par téléphone avec le chef du gouvernement. Ce soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendra son point presse hebdomadaire à 18h. Mais comme pour attester encore de la bonne volonté de dialogue, Matignon précise déjà qu'aucune mesure contraignante ne devrait être annoncée.
Merci Sophie Delpont. Quand la presse se retrouve elle aussi bouleversée à plusieurs enseignes par l'épidémie de Covid-19 et vit parfois un paradoxe pour nombre de journalistes scientifiques, c'est le cas notamment pour Mathilde Fontaise, journaliste à Science et Vie, qui évoque une situation critique pour le mensuel emblématique de la presse scientifique en France. La rédaction est en effet en grève illimitée depuis mardi et vient de perdre son directeur sur fond d'un conflit larvé avec le repreneur du titre, notamment pour des questions d'indépendance éditoriale. Mathilde Fontaise.
Ah bah, la situation là est critique. On est dans un moment de vérité. On a formulé la semaine dernière des demandes de réponse auprès de l'actionnaire pour deux points. Le premier, c'est le maintien de la qualité de Science et Vie. On est en sous-effectif chronique depuis le rachat qui a eu lieu il y a un an de Mondadori, la société qui éditait Science et Vie, par ReWorld Media. Et on avait un accord sur des postes pour réétoffer la rédaction, qui manque aujourd'hui d'un journaliste qui suit par exemple la santé, médecine et alimentation, ce qui est critique pour un magazine comme Science et Vie, qui a dû traiter la crise du Covid toute l'année. Donc il y avait cette réponse qui était attendue et qui ne venait pas. Il y avait aussi la réponse de savoir, il y a eu des signes en fait de prise de contrôle du site internet d'un point de vue éditorial par les services numériques de ReWorld, donc en passant à côté en fait de la direction de rédaction et de la rédactrice en chef. Et on attend une réponse claire. On a demandé, le collectif de journalistes a demandé une réponse claire de la part de l'actionnaire, de savoir si la rédaction avait bien le contrôle sur les contenus éditoriaux du site. Nous n'avons pas obtenu ces deux réponses. Et les journalistes ont été reçus en entretien lundi par l'actionnaire et avec le directeur de rédaction Hervé Poirier, qui a annoncé son départ pour un accord de désaccord avec l'actionnaire. Donc le collectif de Science et Vie a réagi très fortement à cette nouvelle, puisque le directeur de la rédaction, c'est le garant de l'esprit de Science et Vie, c'est de la cohésion de l'équipe, mais c'est aussi surtout le garant de l'indépendance du titre, de la ligne éditoriale, sachant que la semaine dernière, il y avait déjà une grande tension dans la rédaction.
Voilà, Mathilde Fontaise, journaliste donc à Science et Vie. Elle répondait à Éric Chavreau et toujours sur cette situation critique donc du mensuel. Je vous invite à vous rendre sur le site franceculture.fr. Les syndicats de magistrats avaient convoqué la presse ce matin au siège de l'USM à Paris pour dénoncer une fois de plus le conflit d'intérêts majeur dans lequel se trouve, selon eux, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Anne Fauquemberg, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez, Anne.
Bonjour.
Vous venez d'assister donc à cette conférence. En clair, les magistrats reprochent à l'actuel
Thomas.
Ministre d'avoir
Thomas.
Ordonné une enquête disciplinaire contre trois magistrats du parquet national financier, alors que lui-même était plaignant dans l'enquête qui justifie ses poursuites.
Oui, on parle de l'affaire dite des fadettes qui devait permettre de déterminer s'il y avait une taupe au sein du parquet national financier, taupe qui aurait pu renseigner Nicolas Sarkozy et ses avocats sur l'affaire Bismuth. Dans le cadre de cette enquête préliminaire démarrée en 2014, plusieurs avocats de renom, dont l'actuel garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, ont vu leurs fadettes, ces relevés de connexion téléphonique, examinés pendant quelques jours. Éric Dupond-Moretti, qui avait déposé plainte en juillet dernier contre le PNF, tout en parlant à l'époque de barbouzerie. Aujourd'hui, le même Éric Dupond Moretti, devenu donc ministre, ordonne une procédure disciplinaire à l'encontre de trois magistrats de ce PNF. Cela fait déjà 15 jours et dans les tribunaux, le ton monte car pour les magistrats, cela pose la question des principes de séparation des pouvoirs en démocratie. Ils estiment que le ministre est en situation flagrante de conflit d'intérêts. 82 motions ont été votées ces derniers jours en France et en Outre-mer dans les tribunaux dans le cadre d'AG extraordinaire. Elles ont été communiquées à la conseillère justice du président de la République hier soir, Hélène Daveau, qui ne semblait pas avoir saisi l'importance l'existence du mouvement et surtout le point de rupture avec le ministre de la Justice, selon les organisations syndicales. Le ministre de la Justice qui, selon elle, a multiplié les provocations ces derniers jours. Les syndicats de magistrats demandent maintenant à Emmanuel Macron, à l'instar d'autres grandes personnalités de la justice comme François Molins, de trouver le moyen de mettre un terme à cette situation qui, pour reprendre les termes du procureur général à la Cour de cassation, est susceptible de porter atteinte à l'indépendance de la justice.
Merci Anne Fauquemberg. Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit au tribunal de Paris. Depuis le début de la semaine, la cour d'assises spéciale étudie notamment le puzzle complexe des armes et des intermédiaires. Si au cours des 4 années d'investigation, jamais les policiers ne sont parvenus à établir le circuit ayant permis aux frères Kouachi d'acquérir leur arsenal. En revanche, concernant Hamidi Koulibaly, 8 des armes retrouvées dans l'hypercachère ou dans l'appartement loué par le tueur ont vu leur provenance confirmée. Toutes, en l'occurrence, ont été achetées à une société slovaque, mais surtout à l'origine de cette commande, on trouve un trafiquant lillois, Claude Herman, ancien indicateur des douanes et des gendarmes. Florence Thurm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris depuis ce matin. C'est donc cet homme, connu comme une figure de l'extrême droite dans la région, qui est auditionné.
Oui, il se présente à la barre avec plus d'une heure de retard, tenue décontractée, t-shirt gris, pantalon noir, colosse au crâne rasé, barbe blanche bien taillée qui dépasse légèrement de son masque, main croisée sur le pupitre, sans émoi particulier, quelques excuses à la cour, les embouteillages, avant que le président Régis de Jornac ne rappelle sa condamnation à 8 ans de prison pour trafic d'armes à Lille. Vous ne serez pas jugé une nouvelle fois, poursuit le magistrat, mais cela vous fait quoi d'être devant cette cour d'assises, sachant que les armes que vous avez fournies ont fini entre les mains de terroristes qui ont tué des personnes. Mes sentiments sont clairs, répond Claude Herman sans trouble apparent. Il n'y a pas une heure sans que j'y pense. C'est un énorme loupé, ajoute-t-il. Les 8 armes sont bien passées par notre société, mais j'étais sous surveillance depuis 2013. 1 an de surveillance par 4 services de police différents. Soit je suis très bon, soit ils sont très très con. Il rappelle au passage qu'il était une source humaine, autrement dit un informateur de la gendarmerie, qu'il tentait d'infiltrer un réseau de braqueurs. Le président hausse le ton, lui d'ordinaire plutôt placide. Si les armes n'avaient pas été trafiquées, les gens ne seraient pas morts. Moi, je les ai achetées en toute légalité. Je les ai fournies neutralisées. Quand on est dans le même panier de crabes, on se rejette la responsabilité. C'est classique ce jeu de poker menteur, riposte Régis de Jornac. Le témoin ne se démonte pas, invoque à plusieurs reprises une vérité judiciaire qui n'est pas la sienne, finit par s'agacer. « Faut que je m'insurge, il y a trop de souffrances et de larmes dans cette salle. Les services ont merdé », lance-t-il. « Il devrait peut-être y avoir d'autres coupables dans le box, mais ce n'est pas moi. »
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Romain Lucquiens pour les moyens techniques.
France Culture, il est 12h43. La suite de votre journal, Thomas Cluzel. Le sommet européen extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles sera-t-il l'occasion d'un énième règlement de compte à 27?
Oui, depuis la présentation, c'était la semaine dernière, du pacte migratoire et de son mécanisme de solidarité obligatoire. On savait déjà l'ambiance, disons, houleuse entre les États membres et ce n'est certainement pas la publication hier du premier rapport sur le respect de l'état de droit au sein de l'UE qui aura permis d'apaiser les tensions. Alors officiellement, ce sommet sera consacré à la politique extérieur. Il y sera notamment question du litige entre la Grèce et la Turquie autour des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée, de possibles sanctions contre le Bélarus, sans oublier l'état des négociations sur la relation post-divorce avec le Royaume-Uni. En dépit des appels de la communauté internationale à un arrêt immédiat des hostilités dans la région du Haut-Karabakh, arméniens et azerbaïdjanais semblent déterminés à poursuivre les combats. Même si en l'occurrence, chaque camp en attribue la responsabilité à l'autre. Des affrontements meurtriers qui se sont même propagés hier au-delà de l'enclave séparatiste traversée d'oléoducs essentiels à l'approvisionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Mais surtout au 5e jour de combat donc, et alors qu'aucun camp ne semble avoir gagné un avantage décisif sur l'autre, l'absence de tout signe d'apaisement continue d'alimenter les craintes d'une implication de puissances extérieures. La Russie d'une part, alliée à l'Arménie, et puis la Turquie d'autre part, soutien traditionnel de l'Azerbaïdjan. À ce titre d'ailleurs, Moscou s'est dit hier soir très préoccupé du déploiement dans le conflit de terroristes et de mercenaires étrangers venant de Syrie et de Libye, ou dit autrement Nathanaël Charbonnier, deux terrains où Ankara est aujourd'hui militairement actif avec ses alliés locaux.
Premier élément, la Turquie dément avoir envoyé des mercenaires dans la région. Elle explique la main sur le cœur que tout cela est faux et que son soutien à l'Azerbaïdjan s'inscrit dans le projet turc d'union des peuples turcophones. Mais cependant, certaines sources disent exactement le contraire. Des photos de mercenaires syriens envoyés dans le Haut-Karabakh circulent. Le quotidien britannique The Guardian a publié une enquête qui prouverait que des rebelles syriens auraient été embauchés par une société turque avec pour mission de rejoindre la région pour y faire la guerre. Si c'est vrai, il faut savoir que ces mercenaires payés par les Turcs sont ceux qui sont passés de Syrie en Libye. On parle de plusieurs milliers de combattants. Ils seraient notamment sunnites pour une intervention en pays chiite. Et l'intérêt, vous expliquent les spécialistes du sujet, c'est que ces mercenaires permettraient au président Erdogan d'être présent en Azerbaïdjan sans mettre en avant son armée. La Turquie qui enverrait des mercenaires, mais ce n'est pas tout. Elle est accusée par les Arméniens d'avoir envoyé aussi des avions de combat. Un F-16 aurait même été abattu. Une information complètement fausse, expliquent les autorités turques. Ce qui est certain, c'est que la Turquie est très active. Elle est le seul pays à ne pas demander de cesser le feu.
Même si son compte Twitter affiche fièrement 17 millions d'abonnés, le président turc Recep Tayyip Erdogan n'a jamais caché son aversion pour les réseaux sociaux, qu'il avait d'ailleurs menacé de supprimer une première fois en 2014. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui doit entrer en vigueur une loi renforçant considérablement le contrôle des autorités sur ce qui constitue en réalité l'un des derniers espaces d'expression à échapper à l'emprise du gouvernement. Il s'agit de sa première interview publiée depuis qu'il est sorti de l'hôpital où il a été soigné. Manifestement, Alexei Navalny n'a rien perdu de son impétuosité. Dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, la bête noire du Kremlin accuse directement le président Vladimir Poutine d'être derrière son empoisonnement. L'opposant, oui, affirme par ailleurs son intention de retourner dans son pays. Je ne ferai pas le cadeau à Poutine, dit-il, de ne pas retourner en Russie. Au lendemain d'un premier débat présidentiel particulièrement abrasif, marqué notamment par les propos ambigus de l'actuel locataire de la Maison Blanche sur les milices d'extrême droite, Donald Trump a tenté hier de désamorcer la polémique face au tollé, y compris d'ailleurs au sein de son propre parti. Le président a appelé les Proud Boys, ces groupes paramilitaires de suprémacistes blancs, à, je cite, laisser la police faire son travail. Et puis toujours aux États-Unis, les deux compagnies aériennes américaines et United Airlines ont annoncé hier le licenciement de 19 000 salariés pour l'une et 13 000 pour l'autre, avec encore l'espoir toutefois que ces employés, que leur direction annule cette décision. Encore faudrait-il pour cela que démocrates et républicains parviennent à s'entendre sur un nouveau plan de soutien à l'économie, ou qu'en syndicats et patrons du secteur plaident tous azimuts pour une rallonge du programme de subventions accordé en pleine crise sanitaire. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Emmanuel Wargon, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique et chargée du logement. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Avant d'évoquer avec vous notamment la prime pour la rénovation thermique des bâtiments désormais ouverte à tous les Français pour les résidences principales, une première question, madame Wargon. J'évoquais en début de ce journal les entretiens menés depuis ce matin par Jean Castex avec plusieurs élus de grandes métropoles. Le gouvernement a-t-il pris acte du procès en centralisme qui a pu lui être fait lors de l'annonce des fermetures de bars et de restaurants à Marseille?
Vous connaissez Jean Castex, notre Premier ministre, et son attachement au couple maire-préfet et à la possibilité que les décisions soient prises localement. On l'a toujours dit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Olivier Véran s'était rendu à Marseille en fin de semaine dernière aussi. Et là, je crois que le message, c'est de dire, s'il y a des décisions nouvelles à prendre, anticipons-les avec les grands élus.
Question
de
Marchoin.
On va passer au thème qui nous intéresse aujourd'hui, le logement, avec avec l'extension du périmètre de MaPrimeRénov', donc qui vient remplacer le CITE, le Crédit Impôt Transition Énergétique. Alors, quelle différence avec ce CITE en termes peut-être de budget d'abord, et puis de périmètre et d'ambition?
Alors, on simplifie et on met plus d'argent. On simplifie parce qu'avant, on avait une prime pour une partie des Français, MaPrimeRénov', pour les ménages les plus modestes, et on gardait un crédit d'impôt pour le reste. Là, tout passe en prime, et c'est beaucoup plus simple, on la demande plus vite, et surtout, on a l'argent plus vite. Dans un crédit d'impôt, vous avez l'argent un an et demi après la dépense. Là, on aura l'argent trois semaines à la fin des travaux. Et après, en montant budgétaire, on investit plus grâce au plan de relance. Cette année, en 2021, on mettra 2,3 milliards d'euros pour soutenir la rénovation chez les particuliers. C'est presque 1 milliard de plus que cette année, donc c'est considérable.
Et on augmente aussi le périmètre de gens qui ont droit ?
Tout à fait. Jusqu'à présent, c'était ouvert seulement aux propriétaires occupants. Et là, on ouvre aux propriétaires bailleurs. Ça veut dire que les propriétaires qui ont un locataire chez eux sont aussi aidés pour faire des travaux. Or, c'est le locataire qui va bénéficier de la baisse des charges et de la baisse du coût de l'énergie. Donc, c'est une belle incitation. Et enfin, on fait une prime unifiée aux copropriétés. Pour l'instant, dans une copropriété, chaque copropriétaire doit faire sa propre demande d'aide en fonction de sa situation. On simplifie, c'est la copropriété pour ses travaux qui recevra une aide et donc ça ne sera plus modulé à l'intérieur de la copropriété. Donc plus simple et plus de moyens.
Alors les plans de rénovation thermique pour les bâtiments, on en a fait beaucoup, on en parle depuis longtemps. On se bute toujours à un certain manque d'efficacité, on parle beaucoup de complexité pour avoir droit à ces primes ou à ces crédits, etc. Comment faire pour rendre ça massif ?
Alors d'abord, ça a commencé à marcher. En 2019, on a accompagné plus d'un million d'opérations de rénovation grâce notamment au certificat d'économie d'énergie, c'est-à-dire le financement par les grandes entreprises d'énergie. On a fait 800 000 isolations et 250 000 changements de chaudière. Cette année, ma prime rénov' est rentrée en vigueur au 1er janvier 2020. Malgré la crise, on vient de passer le 100 millième dossier. Donc c'est déjà en train de marcher. Et puis après, c'est un très gros travail fait aussi avec les professionnels que je veux saluer. Parce qu'il faut que la filière soit au rendez-vous, les artisans. Et notamment dans la qualification de ces artisans avec le label RGE, qui est un label de qualité qui monte en compétence et en puissance. Donc je crois que là, on a tous les éléments pour que ça marche.
Alors parlons de la filière justement. Les promoteurs, les entrepreneurs du logement et les organismes HLM aussi estiment que en termes de construction de logements, on est un petit peu à la traîne. On en construit même moins par an qu'avant le quinquennat de M. Macron, le début du quinquennat. Ce choc de l'offre qu'il avait promis, où est-il et comment faire ?
Alors la construction neuve a été atteinte par la crise Covid et le confinement comme à peu près tous les secteurs. Et c'est vrai que cette année, on va avoir moins de mises en chantier et moins de permis de construire que d'habitude. J'ai lancé une concertation avec tous les acteurs du neuf pour voir comment faire. Trois piliers. Un premier qui est la prorogation des aides fiscales au neuf, que ce soit pour l'accession à la propriété, donc le prêt à taux zéro, ou pour l'investissement locatif, le dispositif dit Pinel. Donc on les prorogera après fin 2021. On est en train de voir comment. Les concertations sont en cours. Deuxième pilier, rapidité des procédures. On a perdu du temps cette année, c'est de la faute de personne. Il y a eu le confinement.
Ça datait d'avant 2020. Hein.
C'est vrai, mais cette année, ça s'est accentué. Et donc, on a des retards de permis de construire. Encore une fois, c'est de la faute de personne. C'est lié aussi au fait que les élections municipales se sont étalées sur une durée plus longue. Mais il faut qu'on arrive à rattraper le temps perdu. Et troisième pilier, mobilisation collective. Parce que je crois qu'il faut continuer à sensibiliser, notamment les élus, les maires, sur le fait qu'on a toujours besoin de construire du logement social, du logement tout court, du logement dit intermédiaire, donc à des prix maîtrisés. On a un besoin de logement en France, en particulier dans les zones dites tendues. Et ça, il faut qu'on continue à le dire et à le porter.
Alors, il y a eu aussi le sentiment d'un espèce de haro sur le logement social avec ce gouvernement. Alors, notamment avec les grosses ponctions qui vont continuer sur le budget d'Action Logement. Est-ce que vous serez la ministre qui va le réhabiliter, le logement social ?
Moi, je défends évidemment le logement social. On a un objectif à 110 000 agréments cette année qui sera difficile à tenir, mais j'en parle tous les jours avec les bailleurs et je sais qu'ils sont mobilisés. Action Logement est un acteur important, c'est un acteur paritaire des partenaires sociaux. Et donc, nous engageons une discussion avec eux pour voir comment aller vers encore plus d'efficacité, de réactivité. Mais je serai la ministre qui soutiendra le logement social et Action Logement.
Oui.
Et on s'arrêtera là. Merci Emmanuel Wargon, ministre du Logement, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Chouin ainsi qu'à Julien Girard pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par les premières pluies liées à la tempête Alex attendue en milieu de nuit prochaine. 5 départements en particulier, la Loire-Atlantique, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine ont été placés en vigilance orange. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.